Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de Cynoconsulte où l'on va échanger avec Audrey Ventura, coach en comportement homme-chien. Vous le savez probablement, Audrey est la créatrice et gérante de la société Cynoconsulte et depuis de nombreuses années, Audrey aide les humains dans leur relation avec leur chien. Elle est coach, autrice, conférencière et formatrice. Elle a écrit deux ouvrages au moment où je vous parle, « Le chien, cet animal qui nous échappe » en 2020 et « Mon chien, mon coach et moi » en 2023. Ces deux ouvrages cumulent une bonne vingtaine de milliers d'exemplaires vendus aux particuliers et aux professionnels de la francophonie, principalement France, Benelux, Suisse, Québec, mais aussi les départements et régions d'outre-mer comme la Martinique, la Réunion, Mayotte ou encore Guyane. Si vous n'avez pas encore pris le temps de lire ces deux ouvrages, je vous invite à vous rendre sur cynoconsulte.fr. Les livres peuvent bien sûr s'acheter en ligne, mais aussi auprès de la trentaine de dépositaires répartis pour la plupart en France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Là encore, sur le site, vous verrez une carte qui vous situera les points de vente les plus proches de chez vous. On est ici en présence d'Audrey pour parler d'un projet en gestation depuis quelques années, mais qui, à ce jour, est dans le nid douillet de l'imprimeur, prêt à éclore d'ici quelques semaines. Je parle du jeu « Le chien, cet animal qui nous échappe ». Un jeu simple, sous forme de quiz, questions-réponses, accessible, ludique, mais aussi instructif. On va voir tout ça d'ici quelques instants. Alors j'ai plusieurs questions qui me viennent, mais d'abord accueillons Audrey Ventura. Bonjour Audrey, comment ça va ?
Bonjour, ça va très bien, merci.
Si tu veux bien, on va essayer de décortiquer le jeu, en tout cas le projet du jeu, et le sujet qui me vient en premier, c'est la genèse. D'où est venue cette idée de créer un jeu sur le chien après avoir écrit deux livres ? Est-ce que finalement c'est pour élargir la destination, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous et toutes lecteurs, mais qu'on peut approcher le sujet du chien par le jeu ?
C'est tout à fait ça. Certaines personnes sont éloignées de la lecture et le jeu est une manière d'apprendre qui a toujours fonctionné. Mmh. Ça fonctionne autant chez les adultes que chez les enfants. Ça fonctionne chez le chien aussi. Le chien apprend beaucoup en jouant. Alors, j'ai eu envie, il y a quand même un petit bout de temps, de créer ce jeu, de créer un jeu qui pourrait... élargir l'information, la rendre accessible à tous, sous une autre forme que la lecture.
Son nom, tu as décidé de l'appeler comme ton premier livre. Pourquoi ?
Alors, le livre s'appelle « Le chien, cet animal qui nous échappe ». Et comme c'est un jeu qui est construit sous forme de quiz avec 500 questions, parmi ces questions, il y aura forcément celles auxquelles on sait répondre. Et puis, il y a toutes celles qui nous échappent. Et elles sont plus nombreuses qu'on ne le croit, finalement, si j'en crois les familles bêta-testeuses. Et alors, le jeu « Le chien, cet animal qui nous échappe » me semblait... Ce titre me semblait à propos parce que beaucoup d'informations nous échappent sur le chien, qui est un animal que l'on connaît, que l'on croit connaître, que l'on croise tous les jours. C'est un animal qui est très présent dans nos vies, dans notre société. Et malheureusement, on fonctionne sur beaucoup d'idées reçues, d'idées préconçues. On croit savoir. Alors voilà, le chien nous échappe à tous et par le jeu... Et j'espère qu'on s'en approchera un peu plus.
Justement, revenons sur le jeu et sa forme. C'est donc un quiz avec des grands thèmes et un système de questions-réponses. Est-ce que tu peux détailler un peu ce qu'on va retrouver dans ces grands thèmes ? Tu parlais de 5 grands thèmes.
Oui, alors 5 grands thèmes, 500 questions réparties en 5 grands thèmes, donc 100 questions par thème. On a le thème biologie-zoologie. On a le thème éthologie-comportement, le thème éducation-psychologie et soins, le thème le chien dans la société, culture et croyances, et le chien, la sélection des chiens, c'est-à-dire la sélection artificielle par l'homme, 50 nuances de chiens, 50 nuances de races, c'est vraiment là, pour le coup, sur les races elles-mêmes.
Donc finalement, on voit que les thèmes s'intéressent au chien pour ce qu'il est, dans son existence, dans son anatomie, on va dire, et le chien avec nous surtout.
Oui, surtout le chien avec nous. C'est pour ça qu'il y a ce thème psychologie, éducation et soins. Mmh. Donc on va aborder à la fois le chiot, le jeune chien, le chien adulte, le chien senior, l'éducation du chien aussi, la psychologie, les émotions, la cognition du chien et la relation de l'homme avec le chien, la relation du gardien avec son propre chien. Voilà, donc c'est assez vaste et complet, enfin je l'espère.
Et puis un chien, je crois, un thème avec le chien dans la société où du coup on va venir parler de la culture finalement ou des croyances, c'est-à-dire même dans la fiction, dans la...
Oui, alors c'est probablement, si j'en crois les retours des familles bêta-testeuses, le thème qui plaît le plus parce qu'il fait appel à notre culture, la culture littéraire, la culture cinématographique, les séries, les BD, mais aussi le chien dans les différentes cultures et puis dans les religions, la place que le chien a dans certaines religions, et puis je pense que c'est déjà pas mal. Voilà.
Comment tu as décidé de réunir les questions en grand thème, et finalement est-ce qu'on couvre l'ensemble de la sphère canine en 5 grands thèmes?
Alors j'espère. En tout cas, j'ai volontairement écarté certains thèmes parce que il fallait quand même que le jeu soit abordable par tous. Donc évidemment, la sphère des neurosciences, la sphère vétérinaire, la sphère médico-comportementale a été écartée. Déjà parce que je ne suis pas vétérinaire, donc le jeu est complet, mais couvrir toute la sphère, toute la dimension du chien, c'est ambitieux. En tout cas, on a tout fait pour, et je pense qu'on a atteint notre but.
Tu as parlé à plusieurs reprises de famille bêta-testeuse, donc évidemment le jeu, une fois qu'il a été créé, ou en tout cas au moins imprimé dans ses premiers essais, tu as fait jouer des personnes qu'on appelle bêta-testeuses, tu as fait appel à des gens, quel était leur profil et quels ont été les premiers retours?
Alors oui, cette étape de test était très importante, parce que lorsque l'on crée un jeu, il faut que ce jeu soit éprouvé, il faut jouer beaucoup, et donc il y a eu plusieurs versions de ce jeu en fonction des retours des familles. Donc ces bêta-testeurs ont été choisis sur plusieurs profils. Donc on a déjà des familles avec des jeunes enfants, on a des familles avec des enfants plus grands, de 16-17 ans. On a aussi des professionnels. On a des personnes qui sont totalement éloignées du chien.
Oui, parce que quand tu parlais des familles, c'est des familles qui ont des chiens.
Alors, pas forcément. Pas forcément. Parmi ces familles, certaines ont un chien et d'autres n'en ont pas. Donc, on a parmi ces familles ou parmi les testeurs des gens qui sont éloignés du chien, qui n'en ont pas, qui n'en ont jamais eu et qui ne projettent pas d'en avoir un. C'était très intéressant parce que là, pour le coup, ces familles-là nous ont permis de savoir si elles pouvaient jouer. Ce n'est pas intéressant si on ne fait un jeu qui ne s'adresse qu'à des personnes qui ont un chien. Il faut pouvoir jouer avec tout le monde. Donc on a des familles qui sont éloignées totalement du chien. Voilà, on a des personnes également qui ne sont pas en famille, des personnes célibataires qui reçoivent chez elles et qui aiment, lorsqu'elles reçoivent, avant de manger ou en fin de repas, faire un petit jeu d'une heure avec leurs amis, leurs convives. Et lorsque l'on est dans ce cas de figure, les personnes qu'on a invitées n'ont pas forcément un chien, n'ont pas forcément d'enfants, parfois en ont, parfois n'en ont pas. Donc voilà, on a essayé vraiment de couvrir un maximum de public. Et c'était très intéressant, les retours ont été vraiment très intéressants.
Il y a eu des pros aussi?
Oui, on a eu en effet des pros qui ont été à la fois, enfin qui ont été étonnés, donc eux pensaient en en tant que pro pour pouvoir répondre à toutes les questions. Ce n'est pas le cas, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et donc, c'est là que c'est intéressant, parce que même les professionnels ont appris des choses, et ça, c'est chouette.
Et les gens néophytes qui étaient éloignés du chien, ils ont accepté d'être bêta-testeurs de ce jeu. Est-ce que finalement, ils y ont trouvé un intérêt? Alors qu'au départ, on peut y aller un petit peu à reculons, quoi. C'est-à-dire, je suis éloigné de ce sujet-là, il ne m'intéresse pas particulièrement, mais bon, ok, je vais tester ton jeu parce que c'est pour te rendre service. Finalement, est-ce qu'il y a eu un avis un peu contraire derrière, en disant, mais j'aurais pas trouvé ça finalement si intéressant ou aussi dénué de sens, quoi?
Oui, alors, on a eu en effet des retours des personnes qui nous ont dit, qui nous ont exprimé leur surprise, parce que, en effet, à la base, un jeu sur le chien, quand on n'en a pas, on n'en a jamais eu et on n'envisage pas d'en avoir, de prime abord, c'est pas forcément intéressant pour ces familles-là.
Et puis on peut avoir des a priori aussi.
On peut avoir des a priori, en effet. Et en fait, elles se sont amusées. Elles ont appris beaucoup de choses. Elles ont été très étonnées d'apprendre, notamment... toutes les émotions qui concernent le chien, autant que l'enfant, autant que l'humain en général. Elles ont été très étonnées de la cognition du chien, de ce dont un chien est capable, des soins qu'un chien demande. On nous a dit en retour, j'ai appris énormément de choses, et ça, c'est chouette pour les enfants, parce que dans ces familles-là, il n'y a pas de chien, et donc les enfants n'ont pas de chien, et les enfants se sont beaucoup amusés aussi, notamment grâce au gage.
Alors on y vient justement aux enfants. Je disais que la forme du jeu était assez simple, c'est une boîte cloche. Dedans, il y a 100 cartes, avec des questions au recto et des réponses au verso. C'est aussi pour un côté accessible. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut jouer. Et à partir de quel âge on peut jouer?
Alors, à partir de 10 ans... donner un âge, c'est toujours compliqué, parce que ça dépend évidemment des enfants. Certains enfants à 10 ans auront besoin d'être accompagnés, et d'autres moins ou pas du tout. Et certains enfants à 8-9 ans qui ont un chien et vont pouvoir répondre à plus de questions qu'un enfant qui a 10 ans et qui n'en a pas, évidemment. Donc c'est toujours très compliqué de mettre un âge. Ça dépend à chaque fois des enfants. Mais ce qui est important, c'est que ces enfants soient accompagnés, parce que, évidemment, ils ne pourront pas jouer seuls. Ce n'est pas un jeu qui s'adresse exclusivement aux enfants. Mmh. C'est un jeu qui s'adresse aux familles. Mmh. Alors, les parents auront la mission d'expliquer, de préciser, avec indulgence, évidemment, les réponses des enfants, parce qu'une réponse peut ne pas être parfois comprise, parce que on reste quand même sur un sujet qui est qu'on parle d'un être vivant, émotif, intelligent, et les enfants peuvent jouer avec l'accompagnement de leurs parents.
Je crois d'ailleurs sur les enfants qui jouent qu'il y a, alors on va pas forcément préciser les règles, mais il y a deux sortes de règles, c'est-à-dire que les adultes doivent au moins cumuler une réponse dans chaque grand thème, alors que pour les enfants c'est plus souple.
Voilà, c'est l'indulgence dont je parlais, c'est-à-dire que dans la règle du jeu, qui est évidemment précisée dans la boîte cloche, les adultes, pour gagner, ont l'obligation d'avoir une bonne réponse dans chaque grand thème. Les enfants, on aura donc l'indulgence de les faire gagner si ils ont tout simplement 5 bonnes réponses, quel que soit le thème.
Ok, alors je disais que c'était effectivement un jeu fun. Il y a 5 grands thèmes, et puis il y a une 6e catégorie avec les gages dont tu as commencé à parler. Est-ce que tu peux... alors c'est évidemment, j'imagine, une catégorie à éviter, en tout cas si on veut.
Alors ça dépend, parce que les enfants, eux, ne veulent pas éviter les gages. C'est évidemment le grand moment, parce que c'est drôle, parce que les adultes vont se retrouver à devoir mimer le chien dans certaines situations. Les enfants vont se prêter au jeu. Pour les enfants, les gages sont un grand moment.
Alors, tu parlais de mimer. Est-ce que tu as des exemples comme ça de gages, là, 2-3 qui te viennent?
Oui, alors on aura par exemple chanter une chanson en aboyant. faire reconnaître une chanson par l'aboiement. On aura par exemple mimer un chien qui fait ses besoins. Aussi par exemple mimer le chien qui fait la fête à son gardien qui rentre du travail. Alors on a donné quelques idées de gages, mais ensuite, évidemment, il faut laisser l'imagination parler. Et à partir de ces idées de gages, libre à tous d'en trouver d'autres. Et là, pour le coup, on peut faire confiance aux enfants.
Le jeu, alors c'est un jeu, en effet, mais ce n'est pas parce qu'on joue qu'on n'apprend pas. Et j'imagine que... Du coup, tu as fait beaucoup de recherches, évidemment, pour être diversifié sur l'ensemble des questions et l'ensemble des thèmes abordés. Et en même temps, il a probablement fallu te freiner un peu pour rester cohérent sur la cible. C'est un jeu qui, je le rappelle, s'adresse aux expérimentés comme aux néophytes. Donc il a fallu aller nulle part dans les extrêmes, c'est-à-dire ne pas faire trop compliqué et en même temps ne pas faire trop simple. Il faut jauger un peu la difficulté, c'est pas évident.
C'est ce qui a été vraiment difficile, c'est ce qui m'a demandé le plus de travail, ce n'est pas facile de formuler des questions. Déjà, les familles bêta-testeuses nous ont montré qu'une même question peut être interprétée et comprise de manière différente. Donc déjà, il ne s'agit pas seulement de poser des questions, mais aussi de les poser de la manière la plus claire et la plus simple qui soit, pour qu'elles soient comprises par tous de la même manière.
Il n'y a pas de doute.
Ça, déjà, c'est un challenge. Ensuite, il ne fallait pas que les questions soient trop difficiles. Si on joue et qu'on est dans l'échec, on n'est pas différent du chien. Si on perd tout le temps, on n'a plus envie de jouer. D'un autre côté, si on joue et qu'on gagne, on va énerver les autres. Si on gagne tout le temps et qu'on répond à tout, c'est agaçant. Donc en fait, le jeu est fait de manière à ce que on puisse à la fois tomber sur des questions de difficulté moyenne, mais aussi tomber sur des questions beaucoup plus pointues et sur des questions faciles. Ensuite, ça, c'est le hasard du jeu. Ça, c'est comme dans n'importe quel jeu. On pourra, du coup, si on est de mauvaise foi, dire oui, mais toi, t'as eu une question facile. Oui, mais la question d'après sera difficile ou moyennement difficile. Voilà, donc ça, c'est le hasard du jeu. C'est la magie du jeu. C'est le jeu de société. C'est aussi de faire preuve de bonne foi. Et voilà, mais j'ai essayé de faire en sorte que tout le monde puisse répondre. Alors, en cela, la répartition des questions est très importante, c'est-à-dire qu'on a, à parts égales, des questions ouvertes, qui sont quand même les questions, on va dire, les plus difficiles, puisque là, pour le coup, il faut répondre, on n'a pas de proposition. On a aussi les questions vraies ou faux, qui sont les questions les plus faciles, c'est-à-dire que même si on ne sait pas, on a une chance sur deux d'avoir bon. Et les questions avec réponse à choix multiples. Et donc là, on va faire appel à la logique, au bon sens. Voilà. Mais de toute façon, pour n'importe quel jeu qui repose sur le quiz, on sait ou on ne sait pas. Et après, il y a la petite part de chance.
Et puis, il y a l'injustice, effectivement, du hasard. Le voisin a eu une question simple et moi, j'ai une question que je ne comprends même pas. Donc, c'est effectivement compliqué. Mais ça, c'est intéressant. T'es passé un peu rapidement. Mais tu as observé un équilibre entre les thèmes, c'est-à-dire qu'il y a 100 questions par thème, donc 500 questions au total. Et dans ces 500 questions, et même j'ai même envie de dire dans chaque tranche de 100 questions, il y a un équilibre qui est fait entre les questions ouvertes, les vrais-faux et les questions à choix multiples.
Oui, c'est un tiers.
Ok. On sort un peu de l'intérieur du jeu pour revenir sur son packaging. Le packaging, il est également minimaliste. Je le disais tout à l'heure, c'est une simple boîte cloche. C'est comme un jeu de voyage. J'imagine que ça a été pensé aussi pour pouvoir être joué partout.
Oui, alors c'est une boîte cloche. Donc on peut l'emporter partout très facilement, dans une valise, dans un sac à dos. Le jeu est conçu pour pouvoir être pratiqué partout, en voiture, dans le train, en pique-nique, sur la plage, au bord de la piscine cet été, et à la maison évidemment, sur un coin de table parce qu'on est entre amis et qu'on est en train de boire un verre, ou on a fini de manger et on veut terminer la soirée sur un petit jeu digestif. C'est en effet conçu pour être tout terrain.
Ça dure combien de temps une partie, si on veut au moins qu'il y ait un gagnant?
Alors, entre trois quarts d'heure et une heure à peu près, si l'on joue. si on joue vraiment et que on ne fait que jouer. Maintenant, si entre chaque question on discute, la partie durera plus longtemps. Mais en même temps, c'est le propre du jeu de société, c'est que la réponse appelle le dialogue, la discussion, les points de vue, et c'est ça qui est intéressant, c'est le but de ce jeu, c'est que chacun puisse parler de son chien, parler de son expérience, et voilà. Donc, environ trois quarts d'heure, une heure, si on joue avec du rythme, un peu plus, si on a le temps, qu'on a envie de prendre son temps, qu'on a envie de prendre son temps pour faire des beaux gages qui soient honorés. Et évidemment, ça dure un peu plus longtemps si on a des enfants, puisqu'il faudra prendre le temps de leur expliquer.
Bien sûr. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter qu'on aurait pu oublier, ou alors des personnes ou des structures à remercier ?
Alors, je souhaiterais remercier d'abord les familles bêta-testeuses qui se sont prêtées à l'exercice et qui ont fait le job. Elles ont été vraiment importantes dans le cheminement du jeu. Et puis, donc vraiment, je les remercie chaleureusement, elles et leurs enfants. Et puis, je voudrais remercier du fond du cœur tous les dépositaires qui m'ont soutenue et qui ont commandé le jeu parfois en grand nombre. Alors, je ne peux pas les citer parce que si je les cite, je les cite tous et ils sont nombreux. Mais vraiment, alors, ce sont des professionnels du comportement, ce sont des refuges, des associations. J'aimerais vraiment leur dire merci pour leur soutien, leur fidélité. Déjà, parce qu'ils sont dépositaires de mes deux premiers livres et aujourd'hui de ce jeu, je souhaite vraiment, vraiment les remercier.
C'est aussi un gage de confiance parce qu'ils ont précommandé un jeu qu'ils n'ont pas eu entre les mains.
Oui, alors un gage de confiance et ils n'ont pas été les seuls à me témoigner cette confiance. J'aimerais remercier évidemment tous les particuliers qui ont aussi commandé ce jeu de manière anticipée. En sachant qu'ils ne le recevront que dans le courant du mois de mai, puisque le jeu est en cours de fabrication. Et là, c'est vraiment une belle confiance qu'on me fait. Et je vous remercie tous, particuliers et professionnels, de me soutenir. Merci.
Parce qu'il y a eu, il me semble, c'est une anecdote, mais il me semble qu'au début, en tout cas, c'était peut-être fin décembre ou début janvier, quand tu as dit « je fais un jeu et du coup, vous pouvez le précommander ici », il me semble qu'il y a eu une sorte de crash.
Oui, alors on ne s'attendait pas du tout à un tel engouement. Et alors la boutique, le serveur a bugué. Trop de gens se sont connectés en même temps. Et la personne qui s'occupe de la boutique en ligne a dû upgrader en urgence la boutique, le serveur, parce que trop de connexions. On a dû mettre les gens en attente et communiquer sur les réseaux pour dire on fait au plus vite, mais vraiment on ne s'attendait pas à autant de connexions à partir du moment où c'était un dimanche où on a annoncé la nouvelle, parce que personne ne le savait. On crée un jeu, voilà, tout était expliqué dans la publication. Et là, le serveur n'a pas tenu le coup.
Mais ça donne confiance pour la suite, de voir qu'on crache et que, parce que trop de connexions, je veux dire.
Oui, 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 ça donne confiance, mais en même temps, il y a aussi de la pression, parce que, ben voilà, j'espère que ce jeu va plaire, et il est attendu, et donc bien sûr que ça met la pression.
Est-ce que tu retrouves finalement un peu cette même appréhension, j'ai envie de dire, comme sur tes deux premiers bouquins, quand il y a quelque chose qui est qui représente plusieurs années de travail, qui représente des heures et des heures d'écriture, de recherche, et que d'un coup, pouf, tu vas le balancer en place publique, j'imagine qu'il y a toujours ce même sentiment d'appréhension et d'excitation.
C'est énorme, oui. Ouais. Gros sentiment de d'appréhension et en même temps d'excitation, comme tu dis, parce que on est attendu et que c'est un gros travail, un investissement de plusieurs années, et en même temps qu'on n'a pas envie de laisser partir. Moi, je suis j'ai un problème avec ça, c'est que en fait je reviens sur le sujet, j'y reviens, et on est obligé de me l'enlever des mains et de me dire bon, maintenant c'est tout, c'est tout, parce que c'est toujours perfectible évidemment, mais qu'à un moment donné il faut s'arrêter. Donc Là maintenant c'est la phase de la pression et de savoir si les personnes ont aimé ce jeu et si j'ai fait du bon travail.
Le jeu sera donc disponible sur le site de Cineconsult et également chez les dépositaires. À l'heure où je vous parle, on est impatient de recevoir les exemplaires et de vous les faire parvenir. C'est d'ailleurs une édition limitée car les contraintes de production d'un tel jeu nous ont amené à un choix d'un certain nombre d'exemplaires produits. Environ 1200 ont déjà été précommandés, donc on le disait, par les professionnels et par les particuliers. Le reste ne demande qu'à être chez vous, en famille ou entre amis. Rendez-vous donc sur cineconsult.fr et puis sur les réseaux Facebook, Instagram, LinkedIn. Abonnez-vous aussi à la newsletter pour ne rien manquer. Il ne me reste plus qu'à remercier Audrey pour son temps et puis souhaiter une belle vie à ce jeu qui est en train de naître.
Merci beaucoup.